Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission Histoire de France, et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmana. La semaine dernière, on vous avait parlé de la mafia, on va continuer avec le deuxième volet, la mafia deuxième édition, on va dire. Et pour nous parler de cette mafia, eh bien, on retrouve René-Joseph. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, je vais continuer mon histoire. En fait, de la mafia, en réalité, on s'est focalisé, si on peut dire, sur la mafia sicilienne, Cosa Nostra, puisque bon, il y a d'autres mafias en Italie. Bon, Cosa Nostra, c'est celle que nous avons traitée. C'est un peu le symbole de la mafia, la mère des mafias, en quelque sorte. Hein. Elle a près de 200 ans. Elle est apparue dans les années au milieu du 19e siècle, après 1800, dans les années 1800, à partir de 1812, 1820, 30, surtout dans les années 1860. Hein, voilà. Parce qu'il y a aussi, par exemple, la Camorra à Naples, la 'Ndrangheta en Calabre, la Sacra Unita Corona dans les Pouilles italiennes. Donc. Et bien sûr, il y a les mafias plus récentes, étrangères à l'Italie. Alors, bien sûr, il y a les yakuza japonais, yakuza, et puis les triades chinoises, et puis les mafias russes, hein, qui existaient du temps de l'Union soviétique, mais qui se sont libérées après la chute du mur en 1989, et peut-être notamment sous le régime pourri d'Eltsine en Russie, hein, et qui sont implantés partout. Ce sont des pieuvres, hein, mais y compris Cosa Nostra, qui a émergé hors de Sicile, et elle a posé ses tentacules sur le monde entier, elle vit aujourd'hui parfaitement en pleine puissance, et elle a étendu ses tentacules à l'origine dès les années 1900, notamment en Amérique. Il y avait une mafia, Cosa Nostra, une branche en Amérique, dans des grandes villes, enfin, et qui s'est ensuite autonomisée, hein, la mafia américaine, italo-américaine, a ensuite s'est libérée de la maison mère, mais elles ont toujours, et aujourd'hui encore, collaborer, disons, fraternellement. Alors, un petit retour arrière, sur ce que nous avons évoqué lors de notre émission du mardi 16 février. Donc, j'ai présenté ce qu'était la mafia, donc ses origines, on n'y revient pas dans le détail. Encore une fois, c'était les années 1830, en Sicile de l'Ouest. Et donc, Palerme était une grande ville, très prospère, un port, où notamment transitaient les agrumes. En fait, il y avait aussi les agrumes cultivés en Sicile, voilà, très prospère. Et donc, cette mafia est apparue dès la fin du système féodal en 1812 en Sicile. Il y a eu un 4 août, hein, je ne peux pas me tromper, 1812. Chez nous, c'était le 4 août 1789, vous savez, la fin des privilèges. Et là, c'était en 1812. Donc, les affaiblissements de l'aristocratie, donc qui vendent leurs terres, qui s'effacent, et dans cette espèce de vide s'installent. Alors là, c'est un peu confus, quoi, je veux dire. Mais bon, ce sont des propriétaires. C'est une bourgeoisie mafieuse, en fait, qui achète les terres et qui les sous-loue en petits lots. Le latifundia à des pauvres paysans, et donc ils utilisent ces bourgeois déjà pré-mafieux ou proto-mafieux, notamment des gabellotti qui sont des collecteurs de taxes, et puis ils utilisent des carpieri, des gardes, hein, pour protéger. Et donc là, c'est là la naissance de cette mafia, ces corporations, ces milices, auxquels viennent s'adjoindre des contrebandiers, des voleurs de bétail. La mafia naît là, cette mafia sicilienne. Mais là, on verra qu'elle évolue, on l'a vu. C'était initialement une mafia rurale, du banditisme rural, et puis elle va évoluer au tournant du siècle vers une mafia, on pourrait dire des villes, une mafia qui se modernise et qui infiltre. C'est plus des bandits un genre corse un peu, c'est une mafia qui se fait discrète, qui infiltre les couloirs des palais, aussi bien à Palerme, des administrations, qui infiltre la politique, etc., et qui est aussi à Rome, par la corruption. C'est une mafia discrète, mais autrement efficace, avec les élus, et puis les hommes politiques, les ministres, les parlementaires, les députés, et puis également une mafia qui s'internationalise, on le verra. Donc, je ne vais pas refaire toute l'émission de mardi dernier. On peut signaler quand même que dès 1863, elle est identifiée par une pièce de théâtre, en fait, la relation, en quelque sorte, la présente, telle qu'elle est et qu'elle va perdurer. Il mafiosi della vicaria, donc je ne sais pas, le mafieux du vicaire ou de la vicairie, voilà. Et en 1863, qui expose à peu près, qui présente cette association de malfaiteurs déjà. Et puis en 1865, il y a un rapport du préfet de Palerme, Galterio, qui présente aussi cette association criminelle, son ministre de l'Intérieur. Voilà. Et donc, dès cette époque, les structures de l'organisation sont connues. Et c'est une industrie de la protection, entre guillemets, c'est-à-dire du racket, pur et simple. L'impôt clandestin, je l'ai dit, le racket, elle devient un état dans l'état, et un état parallèle aussi à l'état, parce que les institutions, aussi bien locales que nationales, vont s'appuyer sur elle pour maintenir l'ordre, voilà. Et un discours négationniste se propage toutefois et se maintient jusque dans les années 80, ça paraît fou, au moment où les repentis, il y a un système des repentis qui négocient avec la justice, négocient leur peine, négocient leur protection et vendent tous leurs secrets. Ce sont des traîtres pour les mafieux, hein. Et donc, il révèle, ces révélations, donc, confirment ce que l'on sait pratiquement depuis le 19e siècle, et les rouages, l'organigramme, les rites sont ceux d'origine, pratiquement. Donc, on sait que, bon, l'État va se montrer passif, et il y aura une collaboration avec les élites locales, je l'ai dit, les élus, les fonctionnaires, les chefs, les chefs d'entreprise, avec ce mouvement mafieux, dans une ambiance de corruption et d'intimidation. Autre rapport, dans les années 1900 aussi, d'un préfet, le préfet de Palerme, San Giorgio, à son ministre de l'Intérieur, qui confirme, voilà, qui corrobore ce qui sera tout à fait confirmé dans les années 80 par ces repentis, donc qui confirme et explicite un petit peu le système, ce système mafieux et la complicité du système politique, aussi bien à la capitale que en Sicile. Et on appelle, et puis il faut savoir, on le sait que l'Italie est un pays récent, est un pays neuf, qui s'est regroupé par le biais, on le sait, Garibaldi. C'était une mosaïque d'États. Dans les années 1860, c'est le roi Victor Emmanuel. Donc Victor Emmanuel II, son président du conseil Cavour, et puis le légendaire Garibaldi, réunion, unification, et les États du pape, qui occupe tout le centre de l'Italie, eh bien, avec Rome pour capitale, ne seront incorporés qu'en 1870. Le pape était protégé, Pie IX en l'occurrence, par Napoléon III, l'empereur français Napoléon III, sous l'influence de sa femme probablement, l'impératrice Eugénie, très, très catholique, et donc qui protégeait les troupes françaises, protégeait les États du pape, qui se sont maintenus donc à l'extérieur, si on veut dire, de l'Italie, mais à la chute de l'Empire en 1870, la défaite devant les Prussiens, eh bien les troupes françaises se retirent, et aussitôt l'armée italienne occupe et incorpore le Vatican, voilà, et fait de Rome la capitale de l'Italie. Hein. Et le problème romain ne sera réglé que sous Mussolini en 1929, hein, par le traité du Latran, qui crée le micro-État du Vatican, le souverain, et donc qui règle ce problème qui durait depuis 60 ans à peu près. Voilà. Et donc, c'est un État neuf et encore qui s'organise et qui est, disons, fragile, naïf. Voilà. Et donc, qui n'a pas l'autorité qui est un peu loin. Et puis, c'est une île, la Sicile. Et donc, on appelle cadavres exquis, c'est l'expression, les personnalités assassinées par la mafia, les personnalités honnêtes, hein, et qui gênaient, et qui l'empêchaient. Alors, le premier, c'est Emanuele Notar Bartolo, hein, qui est dit San Giovanni, qui est assassiné en 1893. Il a été maire de Palerme en 1873-1876, puis gouverneur de la Banque de Sicile. Et il a refusé notamment de se livrer à la corruption qui était pratiquée à grande échelle par un député qui était membre aussi du conseil d'administration de la banque, Raffaele Palizzolo. Et donc Raffaele Palizzolo, qui avait profité, qui avait détourné des millions de lire, hein, c'était une somme fabuleuse. Alors, donc, Notar Bartolo serre l'hémorragie et il est condamné. Donc le commanditaire le fait exécuter. Il est exécuté dans un train. Donc c'est assez, le train passe sous un tunnel. Voilà, deux tueurs le poignardent en 1893. Et le commanditaire, Palizzolo, eh bien, le député ne sera, après moult procès, appels, etc., eh bien, il sera purement et simplement acquitté. Donc c'est là déjà l'expression de la collusion, hein, y compris de la justice à l'époque. Et puis alors, elle va s'américaniser, elle va, je l'ai dit, une branche s'installe en Amérique, puisque c'est l'exil de nombreux Siciliens, notamment du sud de la Sicile, le Mezzogiorno. Alors il y a à peu près 1,5 million de Siciliens qui partent dans les années, juste avant la première guerre. Volcar s'exile aux USA pour échapper, et parmi eux, bien sûr, il y a des futurs mafieux, des chefs mafieux. Enfin, la mafia suit aussi. Et donc, elle va se regrouper. Il y aura des quartiers, des petites Italies, Little Italy, dans les grandes villes américaines. Donc, par exemple, la Nouvelle-Orléans, New York, etc. Des quartiers carrément communautaristes, on dirait aujourd'hui italiens. Et donc, la mafia va s'implanter, la mafia sicilienne, auprès de ses ressortissants, et pratiquer la même terreur qu'elle pratiquait à Sicile sur les populations émigrées. Hein. Et donc on l'appelle en l'occurrence la main noire, Nano Nera ou Mano Nera. Et donc en 1900, c'est une vraie puissance aux USA, et qui est propagée notamment, comme les autres mafias américaines, par la prohibition, qui provoque un système, une prohibition qui interdit l'alcool, on le sait, hein, c'est une législation puritaine, mais qui provoquera, mais sur une contrebande formidable, et donc l'enrichissement et la puissance décuplée de cette mafia, notamment cette mafia italico-américaine dans les années d'après-guerre, d'après la première guerre, 1933, jusqu'à l'abolition de la prohibition. Mais donc elle va cette mafia américaine va se séparer, non pas se séparer, mais sortir de la tutelle de la maison mère, en quelque sorte, et deviendra tout à fait autonome, mais il y aura toujours des liens forts, des liens, on va dire, ils vont collaborer en frères, en quelque sorte, avec les Siciliens. Et alors on sait que sous Mussolini, entre 1922 et 1943, il va mater, par le biais d'un préfet, mater cette mafia, pas la tuer, il est impossible à tuer, mais il va la réduire, à sa plus simple expression, elle est KO. Et notamment, donc c'est son préfet, super préfet, Cesare Mori, un homme intelligent, courageux, et qui est doté des pleins pouvoirs, et qui se fait mafieux, si on peut dire. Il va sortir quand même, il a les pleins pouvoirs, mais il n'hésitera pas à utiliser des méthodes dignes d'un mafia pour réprimer, répression implacable, et puis aussi par la ruse. Il a compris l'évolution de la mafia, c'est plus un banditisme des champs, hein, des vols de bétail, enfin, etc. Il a compris qu'elle s'infiltrait, qu'elle devenait une mafia corrompue, une mafia des villes en quelque sorte. Et donc il réussit à l'éradiquer, enfin, je l'ai dit, à l'endormir, à l'assommer. Donc il est rappelé à Rome en 1929, et problème, qui va ressurgir après à la fin de la guerre 39-45. Ça sera la chute, bien sûr, du fascisme et l'armée américaine, opération Husky, en 43, débarque en Sicile. Elle remontera la botte italienne, on sait par Naples, etc. Et la mafia, les Américains vont ramener dans leur bagage cette mafia et la rétablir, et notamment avec l'aide de la mafia américaine. Donc pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'elle, notamment pour l'aider à se réimplanter, parce que les mafieux connaissent bien la Sicile, enfin leur aide est assez négligeable apparemment. Mais bon, il faut savoir aussi que, surtout, ils vont s'avérer, puisqu'il y a un vide là aussi, un vide étatique, hein. L'armée américaine s'installe, on y reviendra, et le fascisme est mort, et on craint le communisme. À l'époque, c'est le communisme qui est très très fort, on sait, l'URSS fait partie des grands vainqueurs, et puis les partis communistes sont puissants, ils ont participé à la résistance, par exemple en France, en Italie, ils sont très puissants, et donc c'est la crainte, surtout du rouge. Et donc la mafia, elle était antifasciste, là elle a un brevet d'antifascisme sans problème, et puis elle est aussi anti-rouge, anti-communiste, enfin tout au moins pas par idéologie, mais elle est employée, voilà, pour mater. Et mater, par exemple, tout ce qui est agitation sociale dans la grande pauvreté, notamment en Sicile. Donc on l'utilise comme supplétif contre le communisme et contre l'agitation paysanne. Et puis la démocratie chrétienne qui va s'installer au pouvoir, donc est elle-même anticommuniste, et les grands propriétaires, et donc les Américains, je l'ai dit, vont employer cette mafia comme supplétif, comme milice, pour réduire, pour maintenir l'ordre. Voilà. Et donc ils feront alliance avec la pieuvre, pour ce maintien de l'ordre, sans complexe, sans scrupule. Elle assure l'ordre, elle est efficace, et les élus locaux aussi. Donc c'est là qu'est née cette collusion durable avec Cosa Nostra, et donc notamment, je l'ai dit, de la démocratie chrétienne. Collusion pendant de nombreuses années d'après-guerre, pendant 30 ans, où la démocratie, avec une figure, notamment celle d'Andreotti, Giulio Andreotti, qui est le symbole de cette collusion. Il était probablement un mafieux lui-même. Il n'y a aucun doute, il n'a jamais pu être condamné. Et donc c'est cette nouvelle mafia modernisée, voilà, qui utilise les marchés publics avec les élus locaux, par le biais des marchés publics truqués, avec des entreprises de paille, les élections achetées, et puis elle évolue vers le trafic d'héroïne. Et puis il y a eu aussi, on le sait, je l'ai dit, avec l'armée américaine, le trafic, les fournitures, lorsque l'armée américaine s'installe, sur les véhicules, sur toutes les fournitures, un marché noir formidable. Et donc, avec la complicité de certains agents, ce qu'on appelle l'AMGOT, c'est-à-dire la structure de gouvernement provisoire installée par l'armée américaine, notamment en Sicile et en Italie. Bon, nous allons poursuivre notre histoire et voir l'évolution après-guerre, hein, de cette mafia en Italie, en Sicile, mais on sait qu'elle est sème partout, mais son fief, c'est toujours la Sicile. Nous y revenons après la pause musicale.